19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Ah là 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 là, bonsoir, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le savez, les informés, on est là pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. C'est parti pour une heure et au sommaire, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de revenir sur le cœur d'enfant, un mouage. C'est une espèce, comment dirais-je, d'opéra qui nous vient de Palestine. On va en parler dans une poignée de minutes. Ensuite, après le 19h30, ça c'est le billet d'humeur, évidemment corrosif, avec le docteur Majid Seoussine qui viendra exactement nous livrer son regard sur l'actualité. Et puis les débatteurs, influenceurs qui sont avec nous, Gamal Abina face à Farid Temsamani. Deux points de vue différents, deux regards différents sur trois sujets. La fusillade dans une école au Texas, vous savez, il y a d'ores et déjà des membres de la République, du Parti Républicain, qui proposent, eux, d'armer les enseignants pour empêcher de nouvelles tragédies. Est-ce qu'on résout la question ? Est-ce que l'État est prêt, à réformer justement sur la question du port d'armes ? Et puis aussi, Joe Biden qui s'est exprimé, qui a fait une déclaration, mais il n'a pas le pouvoir au Sénat. Donc, est-ce que sa déclaration a une influence, un pouvoir, une légitimité? On en parlera tout à l'heure. Autre sujet aussi qui a retenu notre attention, c'est l'affaire Abad, qui prend une ampleur pas possible. Est-ce qu'elle, clairement, cette affaire affaiblit le gouvernement, l'exécutif? On en parlera tout à l'heure et on soulèvera la question, puisque le parquet, lui, de Paris, n'ouvre pas l'enquête en l'état en ce moment. Mais bon, la question se pose, puisque tout le monde la pose, doit-il rester au sein de l'exécutif? Et puis aussi, on finira avec ce sujet législatif, la NUP, qui gratte, qui prend de l'ampleur et qui occupe l'espace. On dit, paraît-il, que même la NUP pourrait avoir, dès le premier tour, bon voilà, des candidats qui sont pas investis, mais en tout cas qui peuvent se retrouver tout de suite au second tour. Mais on parle beaucoup plus de 170, les chiffres que j'ai, paraît-il, on parle de plutôt 200, 220 à l'Assemblée nationale. Eh bien, on en parlera. C'est vrai, voilà. La NUP qui, aujourd'hui, est désormais au cœur aussi de notre sommaire. Voilà, je vous ai tout dit. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Je souhaite que chacun se reprenne.
À Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Et tout de suite, l'interview, l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Cœur d'enfant d'Amouage, bonjour Mohamed.
Bonjour Adil Farkan, comment allez-vous?
Mais très bien, très très bien, merci. Vous venez pour nous parler de Cœur d'enfant d'Amouage, ça c'est une opéra qui nous vient de Palestine. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire de quoi s'agit-il précisément? Parce que, me semble-t-il, je crois que c'est inédit, hein, c'est quelque chose qui relève presque d'exceptionnel en France.
Bon, on peut dire que c'est une exclusivité mondiale, puisque le cœur d'enfant à Mouage, c'est un cœur d'enfant très connu en Palestine, qui a fait des tournées à travers le monde, mais qui a un nouveau spectacle qui s'appelle Amal, Franchir le mur, c'est le titre du spectacle, un spectacle musical, et qui a été produit d'après le conte Le secret de l'huile de Walid Dakar. Et donc c'est un cœur d'enfants de plusieurs dizaines d'enfants qui viennent faire une tournée européenne, qui vont commencer par la scène musicale à Boulogne-Billancourt, présenter cet opéra, donc ce spectacle qui s'appelle Amal, avec les élèves de l'orchestre du conservatoire d'Issy-les-Moulineaux et de Vanves dans le 92.
Oui, oui. Et alors ça s'appelle, spectacle musical d'après le conte Le secret de l'huile de Walid Dakar.
Absolument, absolument.
Alors pour quelle raison l'insulaire orchestre que vous représentez, puisque vous en êtes le secrétaire général, Mohamed Benjebour.
Absolument.
Vous êtes le secrétaire général. Comment cette décision s'est faite justement pour imposer l'opéra From Palestine au cœur de Paris?
Écoutez, en fait, on est d'abord Insula Orchestra et l'orchestre résident de la scène musicale, l'orchestre qui est résident depuis l'ouverture de cette grande salle, la scène musicale, qui est sur l'île Seguin, à Boulogne, qui
elle est impressionnante cette salle, hein.
Qui absolument, et qui préfigure de ce que va être cette île culturelle voulue par le département des Hauts-de-Seine. Donc Insula Orchestra a deux missions. Un, c'est de produire ses propres. On est un orchestre sur instrument d'époque, hein, dirigé et fondé par Laurent Séquilbet, avec une mission qui consiste à présenter des concerts d'Insula Orchestra en tant que tel, hein, avec Beethoven, Schumann, enfin un certain nombre de compositeurs connus. Et puis on a une deuxième mission qui consiste à programmer aussi des spectacles différents, d'opéra, de chœur, de musique classique, mais parfois de musique plus moderne. Et c'est vrai que Aude Tortuo, la programmatrice, a souhaité inviter ce chœur d'enfants qu'elle avait découvert, je crois, en Allemagne, en allant les voir. Et elle a souhaité qu'ils soient au cœur de Paris et que les gens qui s'intéressent à l'art vocal, à l'art lyrique, et aussi à la thématique de la Palestine, puissent venir accueillir et apprécier le spectacle de ces jeunes enfants qui seront, je voulais le préciser, hébergés par des habitants de Neuilly, d'Issy-les-Moulineaux, de Vanves, de Boulogne-Billancourt, etc. Ils seront chez l'habitant. L'idée étant qu'il y a vraiment un échange entre ces gamins qui viennent passer quelques jours à Paris, en France, et les habitants qui habitent dans le coin.
Vous l'avez dit, un événement unique, une première européenne.
Voilà, ça, donc c'est... j'invite les auditeurs de Beurre FM à venir le 10 juin. Ils peuvent réserver. Alors, on a un tarif exceptionnel de 10 euros, tarif unique, quelle que soit la place que vous prenez. Il n'y a pas de différence faite entre les différents spectateurs. Et c'est le 10 juin.
Et 10 euros, c'est aussi une manière pour soutenir ces enfants palestiniens.
Absolument, absolument. L'idée est vraiment de soutenir cette production et de faire en sorte qu'on puisse les inviter, espérons-le, chaque année. Et l'idée, c'est, voilà, vous pouvez, les auditeurs de Beurre FM peuvent prendre. Alors, il y a deux options pour les auditeurs de Beurre FM. Soit ils prennent tout simplement leur ticket sur lascenemusicale.com, hein, et puis ils cherchent à moi, je le 10 juin, à 20h30. Soit ils vous appellent tout de suite, ils se précipitent sur le téléphone et on offrira aux quatre premiers auditeurs deux places.
Ah, tout de suite, allez, lançons. 01 53 48 3000, j'ouvre le standard. Mohamed Benjebour, le secrétaire général d'Insula Orchestre, vous offre. Donc c'est par deux, chaque appel, deux places.
On n'a qu'à offrir à quatre auditeurs, aux quatre premiers, le plus rapide.
On lance tout de suite. Allez, l'antenne est ouverte. Je dirais par deux, donc ça fait 2, 4, 6, 8. Combien de places vous offrez?
8 places.
Donc ça fait chaque appel, 2 places. Voilà.
Absolument.
Écoutez, c'est parti. 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Tout de suite, les quatre premiers qui nous appellent, on vous attend au standard. Et le standard pète, vous le savez, comme à son habitude d'ailleurs, et Giovanni vous accueille. Mohamed Benjebour, vous allez faire des heureux. Tout de suite, nous allons accueillir le premier auditeur. Je vais l'accueillir tout de suite, là, avec son nom. Et on va l'écouter, on va lui offrir tout de suite. Mohamed, vous êtes prêt, Mohamed Benjebour?
Absolument, je suis avec
Monsieur le secrétaire général, qui offre, il se comporte en grand monsieur. Il a décidé d'offrir des places. Allez, Paya du 93, quelle ville du 93, monsieur Paya?
Non, c'est Madame Baya, mais c'est pas grave.
Madame Baya, bonjour, quelle ville du 93?
Bonjour, Bondy.
Mohamed vous écoute, il vous offre 2 places pour aller voir à l'opéra exceptionnel cet opéra venu de Palestine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Mohamed Benjebour?
C'est gentil, en fait, quand j'ai entendu, ça m'a intéressé, donc j'emmènerai moi, bon, je prendrai une place en plus parce que j'ai 2 garçons, mais j'ai vraiment envie d'y aller.
Mohamed, vous le répondez quoi?
On vous accueille avec vos 2 garçons, on vous offre 3 places, Bahia. Hein.
Oh là 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 là! Quelle générosité! Vous rendez compte, Madame Baya?
Non, mais vous allez payer la place.
Lui, vous dit la classe internationale. Vous, allez, je vous
plus,
offre.
J'ai grandi pas loin de Bondy, donc je connais bien Bondy.
En plus, vous avez grandi pas loin de Bondy. Ah. Ouais. En plus. Quelle ville?
C'est une très belle ville.
Baya, comme il y a beaucoup d'appels, on est inondé au standard. Je vous le dis vraiment, c'est l'explosion au standard. 01 53 48 3000. Merci, Madame Baya. Alors, ne bougez pas, on va prendre vos
coordonnées.
On va juste, Giovanni. Tout ça en direct. On prend juste le nom, le nombre de places et le portable. Bougez pas. Anissa de Villepinte. Bonsoir, Anissa.
Bonsoir.
Oh là là, vous repartez avec 2 places pour cet opéra exceptionnel. On vous écoute, Anissa. Et Mohamed vous écoute, le secrétaire général de l'Insula Orchestre.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Anissa. Ah, Anissa. Anissa, si. Anissa, elle a été interrompue parce qu'elle a eu un problème avec son réseau. Lila de Vincennes. Bonsoir, Lila.
Oui, bonsoir.
Vous remportez deux places exceptionnelles offertes par Mohamed Benjibour, le secrétaire général d'Insula Orchestre. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Écoutez, j'avais quand même l'intention d'en acheter, mais ça fera déjà deux places à moi à acheter pour des amis, mais je participerai à cette très très belle action.
Génial. Mohamed, vous lui répondez quoi?
Ben, merci beaucoup Lila, ravi de vous accueillir à Boulogne.
Vous rendez compte, oui, Mohamed Benjibour, vous faites exploser notre antenne pour des belles places, pour une belle cause. Vous rendez compte, Mohamed Benjibour?
Bon, ben, on est ravis.
Le standard saute. Merci Lila, qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, merci. Eh ben, écoutez, je voudrais juste le remercier et éventuellement, si possible, que beaucoup, beaucoup de monde puisse participer à cet événement pour qu'on puisse encore renouveler cette belle action.
Exactement, merci, Lila. C'est une cause. Une belle cause noble. Lila, on a beaucoup d'appels. Oui. Allez, je vous laisse. Mais par contre, Giovanni va prendre tout. Giovanni, prenez tout, un portable et non nombre, etc., etc. La totale, vous prenez tout, hein, Giovanni. Shaima, d'ici les Molinos. Oh là là là, Shaima, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous allez bien?
Oui, très bien. Vous repartez avec deux places offertes par Mohamed Benjibour, le secrétaire général d'Insula Orchestre. Vous lui répondez quoi?
Ben, je vous remercie, c'est tout à votre honneur de mettre en place les dispositifs pour les petits Palestiniens. Et en l'occurrence, j'habite à côté, donc j'irai avec mon mari.
Oh là là.
Bon, super, ravi.
Je vous remercie en tout cas.
Shaima, profitez bien, beau concert.
Merci beaucoup.
Ça, c'est la classe internationale. On va aller à Saint-Maur-des-Fossés. Alidja, bonsoir Alidja.
On a déjà atteint le quota, là.
Bonsoir.
Ah, c'est vrai, ça y est, on a explosé le quota.
Grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
Mais attendez, faut m'arrêter, moi, parce que sinon, moi, je... Alors, vous êtes la dernière.
Arrêtez, c'est pas grave.
Alidja, non, mais Alidja, ça y est, vous repartez, il a dit que c'était pas grave. Vous êtes l'heureuse élue pour les deux dernières places offertes
merci
par
beaucoup,
Mohamed Benjibour.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fête. On vient avec ma fille. Et elle adore les événements comme ça.
Eh ben super. Voilà, ne quittez pas Lidja, on prend vos coordonnées. Ça y est, on a les places, Mohamed Benjibour. Vous voyez comment ça part.
Les auditeurs à en acheter, hein, 10 euros, c'est vraiment.
Eh ben redites-le, alors donnez-nous tout. Alors rappelez-nous.
www.lascenemusicale.com et vous cherchez le spectacle Amouage qui est présenté le 10 juin à 20h30 à la scène musicale sur l'île Seguin.
Le standard continue d'exploser, mon cher Mohamed Benjibour.
Bon,
tant mieux.
Merci beaucoup. En tout cas, je remarque qu'il n'y a que des dames qui nous ont appelés.
Ouais, mais si, je vous rassure, il y a eu des messieurs, mais on n'a pas pu les prendre. Voilà, les dames sont plus rapides, toujours, comme toujours.
Bon, ça ne m'étonne pas.
Et elles viendront avec leur mari, elles vous ont dit. Hein. Merci en tout cas pour tout. On retient la date, le 10 juin. Et toutes les infos, vous avez donné le site, vous avez donné tout cela. Merci, monsieur le secrétaire général. Et à très
merci
bientôt
à vous,
d'avoir été avec nous. 19h13, on marque la pause pub et on se retrouve tout de suite après avec justement les informés et les sujets qui ont retenu notre attention, direction le Texas. À tout de suite.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Quel plaisir de retrouver, vous savez, ceux qui ont des points de vue différents, mais qui sont là pour confronter leurs points de vue. Justement, fusillade direction le Texas, c'est parti, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Farid Temsamani, bonsoir, le consultant géopolitique, justement, concernant l'Afrique. Comment ça va, Farid?
Très bien, bonsoir à tous, salut Adil.
En forme?
Parfait, en cours, ça va.
Pourquoi vous êtes en noir aujourd'hui? Cravate noire, chemise blanche, costume noir. Rares sont les moments
lunettes
où je vous ai
noires,
vu.
Ouais.
Lunettes noires. Il a droit à double cochette, lui, il y va.
C'est vrai que d'habitude, je suis tout en couleur.
Qu'est-ce qui se passe
aujourd'hui? Changé pour un peu.
Changé?
Exactement.
Bah, c'est l'hiver qui arrive.
Gamma Labina en noir aussi.
Pas changé. Moi, si c'est la couleur qui serait étonnante.
C'est vrai, vous êtes toujours en noir
toujours,
aussi.
Toujours,
toujours. Hein, c'est votre couleur fétiche.
Ah ouais, ça, j'ai toujours été comme ça.
Toujours, j'ai vu. Jamais je vous ai vu en bleu.
Sauf quand je suis au bled, là, je fais un effort. Ouais. Là, je sors les couleurs, tout éclate.
Ah ouais, ça y est, vous là.
C'est le soleil qui va.
Vous vous lâchez.
Totalement. J'espère que tout le monde fait pareil.
Gamma Labina qui est là pour commenter l'actualité et la politique. Messieurs, tout de suite, vous savez quoi? Nous allons revenir sur cette tragique événement, là, cette fusillade dans une école au Texas. Vous savez quoi? L'attaque qui a fait quand même 21 victimes, me semble-t-il, dont 19 enfants dans une école du Texas, c'était aujourd'hui. D'accord. Les membres du Parti républicain opposés à Joe Biden, eux, ils proposent de miser sur une politique d'armement pour éviter ce genre d'événement se reproduise. Vous répondez quoi ? Est-ce qu'il faut armer les professeurs ? Ou est-ce que l'État est dans l'incapacité de réformer ? Qu'est-ce qui se passe, messieurs ? Parce que c'est vrai que cette question, elle est récurrente. Farid Tamsamani.
Ben, ça dépend. Si on raisonne d'un point de vue français, il faut arrêter l'armement tout court. Comme ça, on est certain de
pas avoir... On y arrive aux États-Unis.
Mais culturellement, c'est impossible. Et philosophiquement, aux États-Unis, c'est complètement impossible.
Donc ça veut dire que je dépose mon gamin le matin, il n'est pas sûr de que je le retrouve le soir.
C'est même pire.
En gros, c'est ça.
Éviter ce type de tuerie, ils vont multiplier l'armement. En fait, philosophiquement, aux États-Unis, c'est complètement différent sur cette question-là. C'est pour ça que on peut pas avoir un prisme français ou européen.
Donc là, on arme les profs, on arme tout le monde, le proviseur, tout le monde doit être armé.
J'ai pas dit que moi, j'étais favorable.
Non, j'ai compris.
Je vous dis qu'aux États-Unis, c'est ce qui va se passer. Ils vont davantage armer pour éviter les tueries. Ça nous paraît, nous, complètement incompréhensible intellectuellement, mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça résonne. Parce que l'armement aux États-Unis, c'est alors, au-delà de l'amendement, enfin je sais plus quel... d'un point de vue de la liberté. En fait, c'est historique. Et ça remonte notamment à la guerre d'indépendance contre les Britanniques. Et en fait, ça s'est installé. Et aujourd'hui, le lobby de l'armement, arrive à prouver que grâce à l'armement, il y a moins de morts. C'est hallucinant pour nous d'entendre ça d'ici. Mais aux États-Unis, ça passe.
Mais Joe Biden, cette déclaration qui n'a pas de sens d'ailleurs, enfin qui a du sens, si, qui dit vouloir s'attaquer au lobby de l'armement. Menteur. Franchement, il n'a pas le pouvoir.
C'est un menteur.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a.
Il peut l'aller mais il n'a pas le pouvoir.
Non, c'est un menteur.
Gamal Abina, alors pourquoi c'est un menteur ?
Là, il vient d'expliquer Farid très justement, c'est qu'effectivement, bon, il parle de philosophie, j'ai envie de dire, c'est la philosophie guerrière américaine, effectivement. Le second amendement autorise n'importe quel Américain à acheter une arme où qu'il veut. Quoi qu'il arrive. Pourquoi ? On a à peu près 600 millions d'armes qui circulent aux États-Unis, deux pour un Américain.
Oui.
Voilà ce qu'est ce pays. On a à peu près 30 000 personnes qui meurent par an par balle. Voilà, 100 000 personnes qui sont blessées. On a un pays qui est surarmé avec des armements quand même extrêmement violents. On parle d'armes de poing, de fusils mitrailleurs. Michael Moore avait fait un film en 2002 qui s'appelait Bowling for Columbine, qui faisait référence justement à une tuerie dans une fac. Et à chaque fois, c'est le même scénario qui revient. C'est qu'il y a des types qui tuent pour se venger, pour des raisons d'extrême droite ou autre, mais qui tuent parce qu'il y a une culture de la violence qui est entretenue aux États-Unis de façon extraordinaire par les films évidemment, par la violence de rue, par la police qui existe aussi dans la violence. Tous ces éléments font que effectivement, quand Monsieur Biden, qui est un menteur, le terme est à dessein, va dire qu'il va s'attaquer à la NRA, la National Rifle Association, donc c'est l'association de défense des armes. Il ment. Ils ont toujours dit ça à gauche, ils ne l'ont jamais fait. On se rappelle des discours de
M.
Obama.
Exact.
C'est des discours et dans les faits, ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que le lobby de l'armement, et là on parle bien de lobby, mais c'est un très puissant lobby, finance 9 fois sur 10 les deux partis, républicains et démocrates. Donc comme ils ont des accointances des deux côtés et qu'ils sont tous d'accord pour dire qu'on ne touche pas la constitution américaine qui s'est fondée, c'est vrai de le rappeler, c'est bien... en totale opposition au principe anglais qui, lui, n'arme pas la police. Vous imaginez qu'on est très loin. Les Américains ont dit, bon, puisqu'on venait en rupture avec la couronne d'Angleterre, donc la reine-mère qui était celle qui dirigeait les États-Unis aussi quand c'était sous contrôle anglais, eh bien, on sera en rupture avec les principes anglais de ne pas armer la population et encore moins la police. Donc tout ça, c'est vraiment de la réaction pure. Et aujourd'hui, effectivement, la conséquence, c'est qu'on tue les enfants dans les écoles. Et la réponse stupide de ce républicain qui va dire, il faut armer les professeurs, donc augmenter encore plus la violence.
Et donc le droit au port d'armes est intouchable, si je me souviens. Si je vous ai
n'importe qui peut aller dans un établissement. Il a l'arme. Bon. Il n'y a aucun problème.
Alors, ça veut pas dire que
donc, il faut armer les enseignants.
Non, il ne faut pas. Non, c'est ce qu'eux, ils disent.
Bah, ils proposent.
Non, ce qu'il faut, quand on a un pays civilisé, on désarme tout le monde. Et je vous donne un exemple très concret. J'ai une amie qui vit au Canada, qui va régulièrement à New York pour le plaisir new-yorkais, parce que New York a été désarmé. Il faut savoir que New York est devenue une ville sécure à l'époque de Michael Bloomberg et toute la collection. Ils ont dit on va arrêter New York. Le côté Central Park était une véritable jungle. C'est fini. Mais quand vous sortez, quand vous allez de Dakota du Nord, États-Unis, vers le Canada, on vous désarme à l'entrée de la frontière. Et quand les Américains vont au Canada, ils se sentent en sécurité. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que le degré d'insécurité américain, ouais. Quand vous arrivez à l'aéroport, on vous dit trois choses. On vous dit, vous fermez vos portes, les cinq verrous, hein, dans les hôtels. Vous n'avez jamais d'argent sur vous, uniquement le traveler chèque. Et surtout, si on vous demande votre argent, vous le donnez. C'est ça l'Amérique.
Ouais, c'est un peu caricatural. Bah,
c'est un peu caricatural, Farid.
Mais non, mais oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer. Je suis contre l'armement tout court, en vérité, que ce soit les enseignants ou qui que ce soit. Juste deux précisions. Tous les Américains n'ont pas une arme. il y a un volume d'armes qui est supérieur au nombre d'Américains. Gamal l'expliquait, deux fois la population. Ça ne veut pas dire que tous les Américains sont armés. Exactement. Moi, je pense que, en fait, si on veut lutter contre ces tueries-là, parce qu'en fait, ces tueries-là, elles ont quelques points communs, quand même. C'est des hommes, très souvent, jeunes, plutôt de, on va dire, l'ethnie majoritaire du pays, voilà, pour ne pas utiliser ce terme-là, exactement. Et donc, du coup, et qui sont très souvent fanas de jeux vidéo.
Ouais.
Et en réalité, sociologiquement, si on veut vraiment lutter contre les tueries, pas contre les morts à partir d'armes, contre les tueries de cette sorte-là, en fait, il faut agir sur ce type de jeux vidéo. Mais là, vous allez également avoir
le
contre
lobby
vous,
des jeux, bien sûr.
Le lobby des jeux. Et les États-Unis d'Amérique, c'est exactement ça.
Messieurs, second sujet qui a retenu notre attention. Et vous savez, tout à l'heure, 19h30, on ira direction avec le Quad 9 pour retrouver le docteur Majid Soussin, comme chaque mercredi. Je veux revenir aussi sur l'affaire Abad, l'affaire Damien Abad. Peut-elle affaiblir le gouvernement aujourd'hui? Effectivement, parce qu'on voit qu'elle prend de l'ampleur. Le parquet, cela dit, de Paris n'ouvre pas d'enquête en l'état. L'affaire Abad, parlons-en justement, l'accusation de viol contre Damien Abad. Tout comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose clairement la question, peut-elle affaiblir, oui ou non, le gouvernement? Gamal Abina.
Absolument pas. On a eu des affaires en cascade. On a eu l'affaire de... Bon, la plus évidente, c'est quand même l'affaire de ce jeune gars de sécurité qui s'est pris pour un ministre. On se souvient de... J'ai plus son nom, c'est marrant. On parlait que lui, c'était l'affaire... L'ami de Macron d'origine marocaine, j'ai plus son nom.
En début de mandat.
De mandat, oui, comment il s'appelait, c'est marocain.
Bah, Alexandre.
Benalla. Ouais, c'est vrai qu'Alexandre, ça faut s'appeler
Alexandre Benalla.
Voilà, donc c'est un petit peu, ça c'est des amis perso. Ça n'a pas fait tomber Macron, ça ne fait pas tomber le gouvernement parce qu'il se trouve que, et là je serais quand même assez radical, je veux bien qu'on fasse des procès à tout le monde à l'emporte-pièce. Il y a une femme qui a porté plainte contre ce monsieur. Il se trouve qu'elle a été deux fois déboutée, donc c'est à l'eau. Et qu'on fait ressortir dossier par Mediapart qui est opposant, évidemment, politique. Donc, je veux dire qu'on peut pas continuer à chaque fois parce que quelqu'un qui peut potentiellement avoir été violé, c'est pas le problème. Dit j'ai été victime, si ce n'est pas tranché en justice avec une enquête sérieuse, ça n'a pas de valeur. Tant qu'il n'y a pas de sanctions judiciaires, on ne doit pas inquiéter les personnes qui sont aux fonctions. Et c'est le minimum syndical, ça s'appelle la présomption d'innocence, aussi bien de la victime que du présumé coupable.
Mais ça entache le gouvernement. Est-ce que...
Ah non.
Non,
moi j'allais dire, d'accord. Le gouvernement, il n'est pas comptable du passé. Les gens, si jamais il y a eu passé.
Oui.
Il est comptable de l'action gouvernementale des gens qui sont aux commandes. Donc c'est ça qui doit être mesuré. Par exemple, s'ils avaient...
On parle d'exemplarité.
Bah, je prends l'exemple. Je donne un exemple très concret. S'ils avaient fait rentrer madame, comment s'appelle cette femme qui voulait tirer dans les banlieues, vous savez, l'obscure...
Zineb
El Razoui. S'ils avaient accepté qu'elle soit mandatée pour participer à l'élection législative après les propos tenus d'appel à la violence contre les banlieues attirés par balles réelles, on parlait tout à l'heure de l'histoire des tueries, ben c'est un peu ça. S'ils avaient accepté ça, là, il y avait une comptabilité à tenir. Le gouvernement valide des propositions extrêmement violentes. C'est pas le cas aujourd'hui. Cet homme est soupçonné, il n'est pas encore condamné. Donc...
Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Gamal, parce que si on prend par exemple Damien Abad, si tu prends tous les propos qu'il a pu tenir dans le passé, alors dans ces cas-là, le gouvernement va être comptable de pas mal de choses.
Est-ce qu'il appelle au meurtre, objectivement?
Ah, peut-être pas sous cette forme-là,
c'est
mais.
C'est ça le truc plus grave.
Dire, là, mais pas
meurtre,
de
viol, on parle de crime. Meurtre, viol.
Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Il y a peut-être pas grand monde qui le fait tel qu'elle l'a fait.
Ouais, d'accord.
Il y a pas de souci.
Et Farid, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Moi, je pense que ça peut avoir un impact, tout simplement. Maintenant, est-ce que l'affaire va prendre? Gamal a raison, en fait, c'est de la politique. Ça a été sorti. Par Mediapart, mais en vérité par ses anciens amis,
oui,
des LR qui ont été vexés de le voir partir au gouvernement. Là, en fait, je pense qu'en fait, je reviens pas sur tout ce qu'a dit Gamal et ce qui a été évoqué, mais il faut quand même dire que d'un point, il y a deux pas conceptions, mais il y a quand même deux politiques qui s'opposent sur Damien Abad. C'est quoi? C'est bien sûr la lutte des droits des femmes. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour une femme d'avoir le courage de dire que j'ai été abusé, que quelqu'un a joué, m'a agressé, etc. Donc quand ça existe, il faut les accompagner.
Bien sûr.
Effectivement, d'un point de vue judiciaire, il semblerait quand même que l'affaire ait été classée deux fois, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça.
Donc du coup, vous avez quand même un certain nombre d'associations, de leaders sur ces questions-là assez forts qui poussent, qui montent au créneau. Et de l'autre côté, Damien Abad, c'est un secret pour personne, c'est également quelqu'un qui est un handicap physique. Il y a des handicaps physiques, donc du coup, vous avez également des associations de type de lutte, enfin de d'handicapés qui... Exactement, pousse aussi pour dire là c'est un bon symbole pour nous, etc.
Par contre,
on revient pour en parler. Attendez, s'il vous plaît, 19h31, je ne veux pas qu'on soit en retard, ne nous mettons pas en retard. C'est parti, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Je vous redonne la parole tout de suite après. On va accueillir, comme chaque mercredi, le docteur Majid Soussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôpital Les Invalides chez les militaires et au SAMU. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir Adil.
Je vous écoute, on vous donne la parole concernant le billet d'humeur qui vous est consacré. C'est parti.
Bah écoutez mon cher Adil, la semaine dernière, avec cette clairvoyance qui me caractérise et qui devrait me valoir si ce pays reconnaissait le mérite de ses vrais enfants, une nomination comme secrétaire général de l'Élysée à la place d'Alexis Kohler.
C'est ça.
La semaine... Hein, la, je vous remercie pour cette approbation. La semaine dernière, disais-je, avec ce don de prévision égal au moins au vôtre, Adil, vous qui avez déchiré votre carte de la NUP quand vous avez compris deux choses. La première des choses, c'est que ce n'était pas un sésame pour entrer gratuitement dans un camp de nudistes. La seconde, quand vous avez enfin compris que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre et que Renaissance avait de fortes chances de gagner les législatives. Je le répète encore une fois, la semaine dernière, avec ce sens inouï de la prospective, je vous disais que tout allait mal. Eh bien, malheureusement, Adil, j'avais vu juste. Comme si nous n'avions pas assez de malheur dans cette pauvre terre de France, souillée par les wokistes, les islamo-gauchistes, les végétariens et autres véganes partisans de la décroissance, nous avons désormais un ministre de l'éducation noir. Rendez-vous compte.
Oui, oui, oui. Bon. Oui.
Et en plus, je le soupçonne fortement d'être un islamiste adepte de la taria, la dissimulation, car il se fait appeler... Il se fait appeler pape. Ce pauvre Jean-Louis Blanquer doit faire des sauts de cabri dans sa circonscription du Loiret où il a été parachuté en attendant d'être nommé ambassadeur à Ibiza. Vous allez voir, Adil, que nos enfants, en plus du masque, vont devoir aller à l'école avec un pagne et un os dans le nez et que l'on servira bientôt de la chair humaine à la cantine.
Ça tacle la mort, hein.
Comme disait Charles Maurras, le regretté Charles Maurras, le maître, la France n'est pas un terrain vague. Sinon, si vous ajoutez à cela un ministre de la solidarité qui a la même technique de drague que vous, Adil, un verre de HGHB et je vous passe les détails.
Faux.
Il ne manquerait plus que Patrick Toi Poivre d'Arvor soit nommé ministre de la condition féminine.
Oh. Oh.
Vous allez me dire que je suis mauvaise langue.
Oui.
Et qu'en fait, je suis jaloux. Et que j'aurais quand même voulu, même d'un poste de sous-ministre de la protection de la diversité d'opinion nommé auprès du ministre de l'Intérieur. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, celui qui a remplacé Castaner, le ministre qui, quand vous n'étiez pas d'accord avec lui, ne vous disait pas « tu te fourres un doigt dans l'œil », mais vous mettez une balle de LBD dans l'œil. Eh bien non, Adil, vous vous trompez. Je ne suis pas jaloux, car mon heure viendra.
Oui.
Tenez-vous bien, mon cher. L'automne sera terrible. Non pas à cause du troisième tour social, mais parce que le Covid et la variole du singe vont s'associer pour ravager l'Europe et notre pays.
Ah oui.
Et à ce moment-là, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de faire appel à un vrai marabout, c'est-à-dire moi.
Ah, bravo pour le billet d'humeur, bravo, comme chaque mercredi. Comment ça va justement dans les hôpitaux en ce moment?
Je ne sais pas quel mot employer. Catastrophe, désastre, naufrage, Titanic, vous choisissez celui qui vous convient, je crois qu'il recouvre à peu près la réalité.
On ne parle pas du Covid ou etc., on parle des
états.
On parle de l'état de ruine du système hospitalier français qui, il y a encore une dizaine d'années, se vantait d'être le premier système pour l'accès aux soins. Aujourd'hui, on ferme des lits à tour de bras, l'été va arriver et on va devoir en fermer encore un peu plus et tous les hôpitaux travaillent à des plans de fermeture. Sans aucune solution qui puisse être mise en place.
Il faut sauver les services publics. Il faut sauver les services publics, les hôpitaux.
Véritable catastrophe.
Vous l'aviez prédit d'ailleurs il y a deux ans.
Tout à fait.
Absolument.
Vous croyez. Mais chaque fois, vous avez bien dit, ma clairvoyance est immense.
Clairvoyance est immense, je confirme. Merci mon cher docteur Majid Seoussine, à la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Avec plaisir. Je fais aussi les retours d'affection, les scores du loto, les prévisions du tiercé. Le premier 06 en fin d'émission.
Il est bon notre docteur, il est bon. Portez-vous bien, à 19h35 on lance la pub et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de l'affaire Abad, mais surtout aussi également de la NUP qui est sa percée. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est aussi avec Gamal Abina et mais aussi avec Farid Tamsamani. Je redonne la parole à... Tiens, dans l'affaire Abad, Farid, évidemment, était en exposé son point de vue. Gamal ? Alors, voilà, vous vouliez réagir.
Le face-à-face n'aura pas lieu, puisque je suis d'accord
avec
vous.
C'est compliqué d'avoir.
Pardon, j'ai parlé de pardon.
Il n'y aura pas de position.
On va bien trouver un point de désaccord, regarde.
Peut-être la couleur de ton costume, je ne sais pas.
Ouais, peut-être.
Mais plus sérieusement, non, le truc, c'est que, effectivement, ce qu'il dit est parfaitement exact, et j'aime beaucoup parce qu'il met en évidence une chose qu'on n'avait pas évoquée il y a quelques minutes, et c'est bien de l'avoir rappelé, c'est qu'il y a des lobbies, lobbies des féministes que je comprends. Par rapport à une femme violée, évidemment, il n'y a même pas à négocier. C'est une situation de, d'inconfort absolu et total. Exact. Et de l'autre côté, le lobby qui fait plus rigoler, alors je comprends ce lobby aussi, des personnes handicapées, mais le problème, c'est que la défense qui est adoptée par, par la personne qui est incriminée est tellement ridicule que je tiens à la rappeler tout de même. Il ne dit pas, écoutez bien la logique, c'est là où il est vraiment très faible, Abad. Il ne dit pas, je ne suis pas un violeur, c'est inadmissible cette accusation. Il dit, je ne peux pas violer parce que je n'en ai pas les moyens. C'est-à-dire que si j'en avais les moyens, je l'aurais fait, quoi. Donc c'est vraiment très light en termes de position.
Non, ça marche très bien, c'est la victimisation.
Oui, d'accord, mais quand il dit je ne peux pas violer, j'en ai pas les moyens, ça veut pas dire qu'il l'a pas fait. C'est-à-dire qu'il peut pas. Mais c'est quand même assez léger comme défense. Moi, j'aurais dit je ne peux pas violer parce que je ne suis pas un violeur. Ouais. Et en plus, j'en ai pas les moyens. Mais lui, il se défend en mettant en avant.
Gamal, je peux te dire un truc. Tu serais un mauvais politique.
Moi non?
Mauvais politique.
Bah, totalement.
Tu sais pourquoi? Parce que
totalement.
Tu dirais la vérité. Or, un politique, en fait, il est là parce que, en fait, il doit répondre à des gens. Ils veulent ce que les gens veulent. La victimisation, ça marche. Du tonnerre. Mmh. Quand tu as complètement raison, quand tu dis, en fait, c'est, sa défense est complètement stupide. Ça n'est pas moi. Je ne peux pas faire ce genre de. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Que de dire, je ne peux pas physiquement procéder à ce type d'acte.
Moi, il peut pas. C'est
ça veut dire que dans sa tête, il pourrait.
Ah ben c'est ça.
C'est n'importe quoi. Mais tu as complètement raison. C'est complètement stupide.
Ah, c'est comique.
C'est vrai. C'est pas faux. Dernier sujet qui a retenu notre attention, messieurs les législatives qui se rapprochent à grands pas. Le 12 et le 19 juin prochain, vous le savez, d'ores et déjà, on parle d'une véritable percée concernant la NUP. Cette percée, puis ce sondage qui parfois donne la NUP devant la majorité présidentielle et qui parfois le donne coude à coude. Alors messieurs, je voudrais qu'on prenne le temps d'en parler et d'apporter peut-être un éclairage concernant la NUP. La NUP aujourd'hui, comment elle se positionne? Quel est son enjeu? Quelle stratégie? Et puis comment est-elle parvenue à gratter, évidemment, depuis en quelques semaines, est-ce que la NUP aujourd'hui veut être, voilà, clairement, disons-le, la véritable opposition de la majorité présidentielle?
Tout à fait, non, mais ça c'est évident que la NUP, moi je les appelle la NUP, ça me fait rigoler parce qu'ils ont obtenu, ils ont réussi un mariage nuptial assez extraordinaire avec des gens qui ne s'aiment pas. Donc NUP est un nom un peu alambiqué, mais en vérité, la démarche au fond est une réussite. Mettre d'accord des Verts avec du PS, alors qu'ils se détestaient avant, faut pas l'oublier, hein, c'était la guerre mais vraiment ouverte, et avec Mélenchon qui est la figure de l'extrême gauche, qu'il le veuille ou non, c'est l'extrême gauche, mettre tout ça d'accord, sachant qu'effectivement il y a une assise considérable en termes législatifs du parti, je parle pas tellement des Verts, mais surtout le PS est très installé, obtenir cette puissance de potentiel député peut créer le choc. Alors ce que veut Mélenchon, et c'est pour ça qu'il veut être Premier ministre, c'est obtenir la majorité à l'Assemblée, on l'a bien compris, et pour l'obtenir, il faut convaincre. Le problème, c'est que là, moi, je suis pas anti-Mélenchon, je considère que si Macron a Mélenchon avec lui en cohabitation, on aura sans doute une forme de gouvernement beaucoup plus modéré, beaucoup moins à droite, avec un peu plus de social, surtout qu'il y a une fronde sociale qui arrive, donc je pense que ce serait pas inintéressant. Maintenant, parlons des choses qui fâchent.
C'est le nouvel homme fort?
Oui, incontestablement. C'est soit l'extrême droite, mais elle ne peut pas arriver à l'Assemblée, c'est très bien pour des raisons simplement de puissance électorale. Elle n'a pas la possibilité de faire ce qu'on appelle de la proportionnelle. Et donc, il ne reste que lui qui peut, en proportionnel, sans proportionnelle, obtenir la mise. Mais par contre, moi, j'ai un problème avec Mélenchon.
Okay.
Et là, je le dis clairement. Tout à l'heure, je suis dans le 93, donc moi, j'étais là où il y a mon bureau, dans le 93. Il a mis quoi? Il a mis, alors je dis, c'est un terme générique, une européenne en tête de liste. Tous les lieux où il a parachuté, on parle bien de parachutage, Garrido et autres, tous les lieux qui sont majoritairement composés de gens qu'il est en train de séduire, d'immigrés, de fils d'immigrés, des descendants africains, il ne met quasiment que des têtes de liste européennes avec des seconds, tout à l'heure c'est un turc, des seconds couteaux qui sont là pour la décoration. Il a même carrément disqualifié Sabrina Nourri, que vous connaissez, donc ça c'est dégueulasse, il lui a mis un petit jeune de 20 ans, elle a été écartée alors qu'elle a un travail considérable sur le terrain. Eh bien là, je pense qu'il y a un problème. Il va falloir que la NUPS, et pas la NUPS, la France Insoumise surtout, commence à se poser la question de la représentativité des gens issus de l'immigration. Je ne dis pas qu'il faille absolument...
Y compris dans les quartiers populaires.
Oui, parce que quand on va séduire les quartiers, il faut quand même que les figures, on s'y reconnaisse. On prend Azine Taibi, qui lui fait partie de ces gens qui ont émergé, effectivement, il a fait un très considérable de terrain. Mais en vérité, quand je vois tous les parachutages, je veux dire, qu'est-ce que fait Garrido à Bobigny? Il faut arrêter de se fuir de nous. Ah ouais. C'est une plaisanterie.
Farid, Amtamani.
Ouais, mais moi je suis pas du tout étonné.
Ouais.
Enfin, la France Insoumise, je suis absolument pas du tout étonné. Ce qui est étonnant, mais ça répond à du marketing politique, c'est qu'il y a des gens qui enfin, des gens de ces quartiers puissent voter pour la France Insoumise. Il y en a énormément, et d'ailleurs, c'est le premier parti de ces quartiers-là, malheureusement, aux dernières présidentielles. Moi, je crois absolument pas à la majorité pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne crois même pas à cette alliance. Elle existe sur une volonté qui est sauver un certain nombre de circos pour les uns, en gagner pour les autres, pour pouvoir avoir du financement électoral. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que je reproche à Mélenchon, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais s'il avait voulu vraiment gagner la présidentielle, cette alliance qu'il a faite là, il aurait dû la travailler au lendemain du second tour dès 2017. Or, en vérité, ce type de parti en ont strictement rien à faire de gagner le pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des permanents, c'est-à-dire des gens qu'on va rémunérer, des boîtes qu'on va engraisser, tout simplement. Et malheureusement...
C'est quoi des boîtes qu'on va engraisser ?
Des amis, des boîtes de communication, etc., qu'on va engraisser. Et Gamal, je pointe à juste titre les investitures des uns et des autres, d'un point de vue représentativité, notamment dans un certain nombre de territoires. Où je dis très souvent, c'est aller voir qui est permanent dans ce parti-là.
C'est clair.
Allez voir qui est permanent. Ce sont que des amis ou de la famille entre eux. La réalité, c'est celle-ci.
Vous parlez de l'alliance de gauche ?
Non, le cooptage.
Je parle de la France insoumise. Alors, à la décharge de la France insoumise, c'est très souvent le cas également. Ailleurs, j'ai pas dit que c'était propre à la France insoumise. Mais quand on est un parti qui veut faire semblant de parler de diversité, d'être
de religion,
des quartiers populaires, de l'islam, des quartiers populaires, moi, ça me fait doucement rire. Maintenant, pour
revenir à la c'est un fonds de commerce ?
Bien sûr, c'est du business.
Du business.
Un fonds de commerce réservé du bois.
Qu'est-ce que quelqu'un m'a dit ce week-end ? Vous savez, qu'est-ce que quelqu'un m'a dit ? Il me dit, moi, je m'en fous, de toute façon, je vote pour lui pour une seule raison. Il a dit que le prénom Mohamed était un beau prénom. Et je dis, mais alors, du coup, ses propositions sur pour tes enfants, pour ton avenir à toi, pour tes parents, etc. Ah non, je m'en fous. Merci. En fait, c'est terminé, en fait, il n'y a plus besoin.
Ça et puis, en plus, l'argument n'est pas valable. Parce que Ambrine Mohamed, qui est dans le parti de Zemmour, elle peut être considérée comme Mohamed aussi.
Exactement. En fait, pour vous dire que, en fait, ça s'appelle du marketing politique. Donc, malheureusement, les gens... C'est la masse, pas que dans les quartiers populaires, hein, c'est la masse globale dans notre pays et dans les pays à peu près occidentaux comme ça. Pas que occidentaux, mais dans tous les pays comme ça. Je vais revenir juste sur d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire que, est-ce que la NUPES va gagner les élections législatives ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il risque d'arriver soit en tête, soit presque en tête au premier tour, mais qui ne gagneront strictement pas les élections. Pour une raison très simple, c'est que malheureusement, dans ce pays-là, nous avons un mode de scrutin des législatives qui ne permet pas à ce type d'alliance de gagner la majorité. C'est la même chose qui se passait notamment avec le Front National, qui pendant très longtemps faisait des scores extraordinaires au premier tour, qui avait à la fin,
il s'effondrait après,
à la fin, qui avait dans le meilleur des cas, 5 députés sur l'ensemble de la France.
Bah là, j'ai un angle.
Vas-y.
C'est cool, alors, parce qu'on essaie de trouver un angle. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça, parce que c'est vrai que le Front National, effectivement, finit toujours en pantalonnade après, parce qu'il n'obtient pas, effectivement.
Ah, j'ai pas dit que c'était les mêmes proportions.
Non, ça tombe bien. Mais le Front National, de toute façon, il y a un Front Républicain qui est toujours opposé à eux, donc ça règle la question. En règle générale, au pire, triangulaire, ils peuvent passer encore. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même une assise électorale de la part du PS qui n'est pas morte, hein, contrairement à l'idée reçue. Il y a des gens qui pensent que la gauche est morte. Non, le peuple de gauche existe. Le parti PS est disqualifié, c'est pas pareil. Et donc, les élus locaux, en règle générale, ils se maintiennent. On voit très bien que dans toutes les mairies, quand elles sont à gauche, elles restent à gauche, que ce soit extrême gauche ou gauche. Donc je pense qu'effectivement, il peut y avoir, alors je ne dis pas qu'ils vont gagner, hein, parce que là je reste mesuré comme toi, mais je pense qu'il peut y avoir une surprise, parce que le second tour, qui est déterminant, c'est vrai, s'il n'y a pas de bagarre interne, et c'est là-dessus qu'il pourrait y avoir une division, s'ils ne se battent pas au second tour entre eux, je parle des gens de gauche, ils peuvent emporter la mise. S'ils se battent pour se maintenir, là ils vont perdre. Et c'est vrai que c'est probable, comme la droite l'a montré récemment encore une fois.
Bon, il faut ne pas négliger une chose, c'est que tu parlais du Parti Socialiste. Il y a une partie de la gauche, ce qu'on appelle la gauche républicaine quand même, qui a basculé chez les pages, justement parce que c'est Mélenchon, a complètement basculé chez Macron. Absolument. Alors que Macron, pendant 5 ans, le président de la République a clairement montré qu'il a fait une politique de droite. Faut pas se l'avouer. Il a réussi à faire le coup à droite, et je pense qu'il réussit plus ou moins à le faire à gauche. Maintenant, ce qui à mon avis va être intéressant, c'est pas les législatives, c'est l'après-législative. Est-ce que tous ces gens-là vont repartir chacun dans son coin, et du coup, ça va être la même tambouille pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, le président de la République sortant ne pourra pas se présenter, donc
il y a un
véritable boulevard pour qui que ce soit, ou alors justement, ils construisent quelque chose d'assez fort. Est-ce que ça va être autour de Mélenchon ? J'y crois pas beaucoup. Le problème, c'est que si c'est pas lui, le temps de faire émerger quelqu'un qui forcément sera pas 100% valable pour tout le monde, va refaire repartir.
Mais après, juste pour vous dire, Macron a fait une chose qui est importante. Il a pris une première ministre qui est une ancienne de gauche. Donc, il a fait une captation un peu de candidats, parce que ça, c'est.
Là où t'as complètement raison, Gamal, c'est quand tu dis que tout ça, on va avoir au moins un impact positif, c'est que la politique du gouvernement va être un peu plus réorienté vers un centre-gauche globalement. Exactement. Mais pas plus que ça en réalité.
Pas plus que ça, merci monsieur. Merci Farid Temsamani.
Merci à vous, merci Adil, merci Gamal.
Vous revenez quand vous voulez.
Avec grand plaisir.
Grand plaisir aussi partagé.
Plaisir partagé, particulièrement avec vous.
Eh bien écoutez, moi aussi.
Et puis Farid que j'aime beaucoup comme toujours.
Merci, merci.
Eh bien Gamal, moi aussi à la réalisation, c'était Giovanni Bilan Nedman. Vous le retrouvez de 20h à 21h pour Time Sport et son sommaire toujours autant aussi dense, riche. Quant à moi, eh bien, le rendez-vous est donné pour vendredi. Demain, c'est un jour férié, donc on va en profiter pour respirer, lâcher prise. Vous aussi, d'ailleurs, respirez. Voilà, allez vous balader, allez prendre l'air. Voilà, profitez du temps, tout simplement. À vendredi, à 19h, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.